Radio Okapi. Grande interview.
La Commission électorale nationale indépendante a annoncé mardi le report des élections dans les circonscriptions de Beni, Butembo dans le Nord Kivu et Yumbi dans le Maïndombe. Une décision qui intervient quelques jours seulement après le report pour une semaine des élections prévues le dimanche 23 décembre. Entre-temps, la classe politique est divisée face à cette nouvelle décision de la CENI, alors que la tension est encore forte dans les régions où les élections ont été reportées. Du point de vue diplomatique, les relations demeurent tendues entre le gouvernement congolais et l'Union européenne, dont l'ambassadeur est expulsé du pays. Comment la MONUSCO perçoit-elle la situation politique et sécuritaire en RDC? Grande interview reçoit la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Leila Zerougui. Avec elle, nous parlerons notamment du processus électoral, du rôle de la MONUSCO face à la tension politique, sécuritaire mais aussi diplomatique en RDC. Et nous allons également, avec elle, voir quelles sont les recommandations possibles pour un lendemain meilleur et pacifique en RDC. Produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à Grande Interview. Nous recevons ce jour Madame Leila Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Madame Zerougui, bienvenue dans Grande Interview.
Merci, merci à Radio Okapi de me donner l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs.
Portrait.
Avant toute analyse, rappelons que vous aviez été adjointe du chef de la MONUSCO lors du processus électoral de 2011 et vous aviez observé de près la situation du processus cette année-là. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous des élections de 2018 par rapport à celles de 2011?
Je crois qu'il y a des points de similitude, il y a des points aussi de divergence ou de différence. Je pense qu'il y a d'abord le fait que les élections de 2011, la MONUSCO était beaucoup plus impliquée dans l'organisation des élections. On avait participé à pratiquement 60% de transport du matériel, comme vous le savez, l'appui logistique, technique et tout. Cette fois, la RDC a décidé d'organiser ces élections pleinement sur un effort national, sans l'appui surtout logistique de la MONUSCO. Bien évidemment, on est resté partenaire. On a continué à apporter l'appui technique, à être avec la CENI et on l'a accompagnée pendant toute cette période et on continue, on est déployé sur les 26 provinces, mais bien évidemment, l'organisation et la préparation des élections sont, par rapport à la dernière fois, différentes. La deuxième chose, je pense, importante par rapport à 2011, c'est qu'en 2011, le président en titre était candidat. Dans cette élection, le président qui est actuellement le président de la RDC n'est pas candidat. Cette situation est expérimentée pour la première fois en RDC. Il n'y a jamais eu de président qui est en titre et qui n'est pas candidat et qui prépare la relève à d'autres.
Tout à fait.
C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Sur le plan du psychique, quand on n'a jamais expérimenté quelque chose, c'est sûr qu'il y a une situation nouvelle qu'il faut aussi savoir observer et gérer. Donc, pour moi, ce sont les deux choses les plus importantes. Et je pense que la dernière est de loin la plus importante, mais aussi le fait que la RDC organise elle-même ses élections avec ses moyens en assumant les risques et les succès. C'est ça, pour moi, les choses que je peux faire, où je fais la différence. On ne peut pas blâmer les autres, on assume, on se dit, et c'est ça veut dire aussi une maturation des institutions que on est d'accord, on va y aller, on prend le risque et si jamais ça marche pas, c'est notre faute.
Alors madame, la décision de la CENI portant un nouveau report partiel des élections notamment à Beni Butembo suscite des vives tensions dans la région. Nous avons appris que certains malades mis en quarantaine sont même en cavale. Ne craignez-vous pas que cette décision soit encore une source de problèmes plutôt que de solutions.
D'abord, je dois dire que personnellement, je regrette que les populations de Beni Boutembo, qui ont quand même subi beaucoup de souffrances pendant des années, la violence des groupes armés, la violence qui les a vraiment frappés pendant toute cette période où les gens sont tués dans leur sommeil, c'est quand même quelque chose de dur que cette population a vécu. À chaque fois que je vais là-bas, je sens les conséquences de cette souffrance sur des années. L'Ebola a été une deuxième souffrance qui a aussi frappé Beni et Boutembo. La décision a été prise. Moi, j'ai été informée qu'il y avait des préoccupations par rapport aux attaques des ADF et par rapport aussi à l'Ebola. Nous avons pris toutes les mesures avec le ministère de la Santé pour essayer de pallier au risque, parce qu'effectivement, quand vous avez une maladie qui peut se transmettre par le toucher, des centaines de personnes qui passent et touchent un écran, je comprends l'inquiétude. Donc on a essayé d'apporter cet appui pour mettre à l'entrée des bureaux de vote les outils d'hygiène pour se laver à l'entrée et à la sortie pour éviter les transmissions à travers le vote. Donc on a fait ça. Est-ce que ceux qui ont évalué, c'est-à-dire les autorités, c'est-à-dire ceux qui organisent, ont estimé que c'était trop de risques et qu'ils préfèrent reporter plutôt que de faire prendre des risques puisque les gens vont être serrés dans des lignes et tout ça. Est-ce que, je ne sais pas, je peux pas, franchement, je peux pas me prononcer avec certitude parce qu'il ne faut pas qu'on... ça me fait de la peine parce que je considère que les gens de Beni, comme tous les Congolais, c'est une élection importante et ils ont le droit de voter. Oui. Maintenant, il y a ces paramètres que seuls ceux qui sont sur place, responsables de la situation, peuvent évaluer. Je ne peux pas personnellement dire c'est une mauvaise décision, c'est une bonne décision. Je dis simplement qu'il y a des contraintes qui peut-être ont justifiées. Est-ce que c'est la combinaison des risques d'attaques terroristes avec les risques de contamination? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je reste quand même prudente par rapport à ça. Vous avez parlé des gens qui étaient contaminés, qui ont fui. Oui. Je voudrais quand même clarifier.
Tout à fait.
Parce que il y a, les manifestants sont rentrés dans l'hôpital. Oui. Où nous avons un centre de traitement. Oui. Ils ne sont pas arrivés là où les malades sont en train de se soigner, parce que les FARDC les ont empêchés. Ils sont arrivés, ils ont été appelés et ils ont prévenu cette catastrophe. Ça aurait été une catastrophe. Maintenant, ceux qui étaient dans les centres extérieurs, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent pour tester. Et donc, parmi ces gens, sur les 21 qui sont partis, on m'a dit qu'il y a 17 qui n'étaient négatifs, mais il y en a quand même 4, ils n'avaient pas fait ni les tests. Et donc, j'appelle à ces gens, à travers les ondes, pour leur dire, le risque pour vous, pour votre famille, pour tout le monde est grand. Donc revenez pour vous assurer que si le test est positif, il y a des possibilités de soigner des gens. Beaucoup ont été soignés quand ils sont arrivés à temps et ils ne mettent pas en danger leur famille et leurs voisins et toutes les personnes qui les approchent. Deuxième chose, des gens ont pris des choses. Par exemple, dans le cadre quand on rentre, un prend une chaise, un prend... Donc là aussi, j'appelle en disant que ce matériel peut être contaminé. Et il peut contaminer des gens. Donc il faut faire attention, il faut restituer ces choses et il faut éviter de les utiliser ou les faire utiliser par d'autres. Donc je saisis cette opportunité pour faire appel à ça.
Alors madame, l'ONU a proposé une aide logistique à la CENI, une aide qui n'a pas été acceptée par cette dernière, alors que le défi logistique en RDC est immense. Comment avez-vous perçu la position du gouvernement congolais et de la CENI?
D'abord, j'ai répété à chaque fois aux autorités, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer, que la MONUSCO reste mobilisée. Nous avons reçu mandat d'appuyer techniquement, logistiquement ces élections et nous restons mobilisés. Nous avons reçu un budget supplémentaire qu'on ne pouvait utiliser que pour les élections et il est resté à notre disposition et on a insisté sur ça. Les Congolais ont dit, les autorités ont répété à chaque fois qu'ils veulent tester leurs capacités, qu'ils veulent s'autonomiser de l'aide internationale qui peut-être plus tard ne sera pas disponible. La MONUSCO ne va pas être ici pour la vie et donc ils voulaient tester leur capacité pendant peut-être qu'on est là, qu'on peut pallier et donc ils ont voulu organiser leur élection par leurs propres moyens, les moyens techniques, les moyens logistiques et les moyens humains. Nous les avons accompagnés là où ils ont accepté, nous les avons laissés faire là où ils ont préféré faire eux-mêmes. Je n'ai jamais pris, quels que soient les motifs, hein, les motifs peuvent être politiques, ils peuvent être, mais moi je les ai jamais pris négativement. J'ai toujours considéré que nous sommes dans ce pays pour l'aider à s'autonomiser, à renforcer ses capacités, donc on ne peut pas être mécontent si un pays africain décide d'organiser ses élections seul par ses compétences et ses moyens. On peut pas. On peut pas ne pas être content, c'est au contraire. Ouais. Mais on est resté quand même mobilisé et jusqu'à la dernière minute, j'ai répété, n'hésitez pas, c'est bien que vous le faites vous-même, mais si vous voyez que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est complété, ce n'est pas nous-mêmes qui organisons, n'hésitez pas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de demande logistique, mais le travail technique, il a été sollicité, apprécié, et nous travaillons ensemble.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Votre émission Grande Interview reçoit Madame Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Avec elle, nous parlons à présent du rôle de la MONUSCO face à la tension politique, sécuritaire et diplomatique en RDC. Madame Zerougui, comment avez-vous accueilli la décision du gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC?
Je n'ai pas été invitée à cette réunion. Je l'ai appris de la presse. Je sais qu'il y avait des tensions entre les autorités et l'Union européenne. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est des décisions prises dans un cadre bilatéral entre un gouvernement et une organisation régionale. Je regrette que ce genre de rapport se soit détérioré à ce point, mais je n'ai pas de commentaires personnellement à faire sur ça.
Et comment réagissez-vous à certains Congolais qui accusent la MONUSCO de ne pas jouer son rôle de protection des civils lorsqu'il s'agit de la répression des manifestations politiques par les forces de l'ordre?
Je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon, je comprends les frustrations, je comprends les attentes, je sais que parfois les gens attendent de nous plus qu'on ne peut faire. Je comprends parfois nous-mêmes, on n'est pas toujours en mesure de remplir pleinement notre mandat parce qu'il y a aussi des difficultés, il y a des contraintes, il y a parfois des contraintes financières, des contraintes de moyens, de présence, de capacité. Mais je répète encore une fois que la protection des civils quand il s'agit de manifestations, il faut savoir qu'on le fait. Parce que la protection, qu'est-ce qu'on attend de la MONUSCO quand les manifestants sortent? C'est les bonnes offices, c'est que les droits de l'homme font le monitoring, sortent des rapports, dénoncent les violations des droits politiques et des libertés fondamentales. Maintenant, les gens, ils pensent que protéger, c'est ramener les militaires et se mettre la guerre. Ce n'est pas ça, la protection des civils, il y a différentes manières de protéger les civils. Protéger les civils, c'est leur donner un espace où ils peuvent s'exprimer. Quand leurs droits sont violés, on peut intervenir, on peut dénoncer, on peut prendre des actions, on peut mettre notre voix de leur côté. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on est dans la guerre, lorsqu'on est face à des groupes armés qui viennent s'attaquer à des civils, notre responsabilité, c'est d'utiliser les moyens de la guerre pour empêcher ce genre d'attaque qui quand même menace la vie et la sécurité des personnes. Maintenant, dans le cadre des tensions entre partis politiques et autorités en charge, notre rôle ce n'est pas d'envenimer les choses, notre rôle ce n'est pas de créer encore plus de tensions entre les partis, notre rôle c'est de rappeler à chacun ses responsabilités et demander aux autorités de permettre à ce que chaque Congolais exerce ses droits politiques. Nous le faisons de façon systématique à chaque fois que c'est possible et le travail qu'on fait sans que ce soit visible, parce que ce genre de travail il est ingrat, parce qu'on ne le voit pas.
La campagne électorale a été émaillée de violence. Qu'avez-vous fait dans le cadre de votre mission de bons offices pour amener les acteurs clés du processus à garantir la paix et l'apaisement de la situation?
Je voudrais rappeler que je suis arrivée en RDC, dans votre pays, le 9 février 2018. J'ai commencé à travailler le 12. Et la première chose que tout le monde me répétait, l'angoisse, les manifestations du 25 février. Et donc depuis le premier jour, j'ai focalisé sur la banalisation des manifestations, des marches, des deux côtés. En marche, on ne va pas pour mourir. En marche, on ne va pas pour aller en prison. On marche dans la rue, on n'est pas l'ennemi de celui qui est en charge. On est un adversaire, on n'est pas d'accord avec sa gestion, on manifeste ou bien on se positionne dans le cadre de la préparation des élections. Donc c'est une expression politique. Donc la campagne, le moment ultime de cette expression politique, où pendant un mois, la rue qui est censée être exceptionnellement occupée. Pendant 30 jours, les élections disent la rue appartient aux partis politiques. Ils ont le droit de s'exprimer, d'aller rencontrer leurs supporters, de faire des meetings. C'est ça la différence du reste de l'année où c'est exceptionnel quand on occupe la rue. Donc c'était ça pour moi ma préoccupation. Un, rappeler à ceux qui manifestent ou ceux qui s'organisent dans la rue que la rue ne leur appartient pas seule, qu'il faut toujours que les manifestations se fassent de façon pacifique. On n'a pas le droit de sortir dans la rue brûler, piller, ça c'est des infractions. Donc c'est important que ceux qui organisent les meetings, le travail dans la rue, le font de façon pacifique, et les autorités doivent aussi respecter l'exercice de ce droit. Nous avons beaucoup plaidé ça auprès des autorités, je le fais de façon discrète, parce que si on veut réussir dans ces bons offices, on ne doit pas se mettre nous en avant et dire regardez tout ce qu'on fait. Donc on a fait beaucoup. Ouais. On a contacté beaucoup de gens, on a travaillé avec les parties prenantes, société civile, l'Église, le gouvernement et l'opposition.
Le gouvernement réclame depuis longtemps la fin de la MONUSCO. Comment se présentent aujourd'hui vos relations avec le gouvernement, mais aussi avec la CENI?
Alors, depuis quand j'étais là, entre 2008 et 2011, les relations entre le gouvernement et la MONUSCO sont toujours des relations tendu. C'est pas toujours des relations. Vous voyez, entre l'Union européenne et le gouvernement, il y a des tensions. Donc nous, on est déployés dans un pays avec l'accord du gouvernement, parce que le Conseil de sécurité a estimé que la situation nécessite la présence d'une force de maintien de la paix. C'est pour ça qu'on est ici. Nous avons un mandat, il y a un SOFA qui nous lie, mais il y a aussi un gouvernement souverain qui veut exercer ses prérogatives et qui ne veut pas qu'on vienne aussi lui dire « vous n'avez pas le droit de faire ça » aussi. Souvent, il y a des tensions, il n'y a aucun doute. Parfois, le gouvernement lui-même a des frustrations par rapport à notre posture, par rapport à ce qu'on fait, comme l'opposition, comme le reste des Congolais. Donc, c'est normal qu'il y ait des tensions. Mais je ne pense pas que nous sommes dans un conflit déclaré avec les autorités. Nous sommes, chacun exerce ses prérogatives. Nous avons l'espace de communication qui est le plus important et nous travaillons avec toutes les parties prenantes dans ce pays pour faire avancer le processus de démocratisation et de stabilisation et de développement dans ce pays.
Nous amorçons l'atterrissage de notre émission. Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit Madame Leila Zerougui, chef de la MONUSCO. Madame Zerougui, au regard des informations en votre possession, la tension est observable ça et là dans le pays. Ne redoutez-vous pas un embrasement de la situation?
Ben, je ne veux même pas y penser. Je veux pas que la RDC s'embrase. C'est pas l'objectif. On n'organise pas des élections pour embraser un pays. On organise des élections parce qu'on veut justement régler le processus d'accès au pouvoir à travers un processus qui est entendu, qui est prévu par les lois et qui permet à chacun de s'exprimer, de choisir ses futurs représentants. J'espère que tous les Congolais, et là j'en fais appel à tout le monde, que tous les Congolais doivent penser d'abord à leur pays. Les élections sont l'expression du pouvoir populaire. Les élections permettent au peuple de désigner ses représentants, mais dans la paix et dans la sérénité. Il y a des tensions. Ce n'est pas une mauvaise chose. Les Congolais pensent que la tension, c'est une mauvaise chose. Je le répète à chaque fois, des élections, il n'y a pas de tension, ça veut dire que les gens n'y croient pas. Ça veut dire qu'ils ne s'attendent à rien. Ça veut dire que les dés sont joués d'avance et je n'ai pas besoin d'aller me casser la tête. C'est pas le cas, les gens sont sur le terrain, ils se battent, chacun veut faire gagner son représentant. C'est une compétition saine, il faut pas qu'elle transforme le pays en embrasement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et j'ai toutes les personnes avec qui j'ai parlé, que ce soit dans l'opposition, dans la majorité, indépendamment des discours politiques qui sont légitimes. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit « si je ne gagne pas, je vais brûler le pays ». Je vous le dis.
Vous ferez tout ce qui est de votre pouvoir, sûrement. Que comptez-vous faire en tant que mission de maintien de la paix au cas où la situation s'embraserait ?
Je continue de travailler, passer les messages, utiliser les voies de la sagesse dans ce pays. J'ai parlé à l'Église. J'ai parlé à la confession des autres religions. J'ai parlé à la société civile. J'ai parlé aux candidats, au gouvernement, la CENI, la communauté internationale, tout le monde pour dire que chacun fait son petit pas. C'est pas de la magie. Personne n'a le pouvoir tout seul. C'est ensemble, c'est les Congolais aujourd'hui qui nous écoutent, qui eux vont jouer un rôle important pour que même s'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils manifestent ou qu'ils se prononcent, et c'est leur droit, ils le font sans brûler leur pays. On n'a pas besoin de brûler le pays. On a déjà vécu les pillages qui ont ramené la RDC à des années-lumière par rapport à ce que, là où elle était. On n'a pas besoin de ça, on peut manifester, on peut se plaindre, on peut ne pas être d'accord, mais si on reste calme, c'est très difficile pour celui qui est en face de vous tirer dessus ou de commettre l'irréparable.
Est-ce que la MONUSCO a un mandat d'imposer la paix au cas où les uns et les autres ne suivent pas tous ces conseils pacifiques ?
Nous avons un mandat passé sur le chapitre 7. Chapitre 7, c'est quoi ? Ça veut dire que le Conseil de sécurité peut contraindre à travers l'usage de la force. Oui. Ça, c'est écrit, c'est ça ce que ça veut dire le chapitre 7. Le Conseil de sécurité, c'est la seule organisation dans le système multilatéral des Nations Unies qui peut contraindre les États, qui peut prendre des sanctions. Mais nous, notre mandat actuel tel qu'il est présenté, oui. Nous avons un mandat de lutter contre les groupes armés, protéger les civils, appuyer les élections, faire le monotoning des droits de l'homme, appuyer le développement. Donc on travaille sur ça. Si le Conseil veut changer le mandat, nous allons appliquer ce que le Conseil nous dit. Mais pour le moment, notre mandat, c'est surtout d'éviter un embrasement et d'éviter à ce que la situation en RDC nécessite de revisiter le mandat ou de se retrouver. Non, je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux qu'on fasse la fête après. Je veux qu'ensemble, on va se retrouver et on va faire la fête parce que, avec toutes les imperfections, les Congolais, dans leur majorité, sont contents.
Madame Zerougui, vous êtes l'une des voix les plus écoutées aujourd'hui en RDC au regard de votre position et du rôle que vous jouez. La toute dernière question, que recommandez-vous finalement aux uns et aux autres pour que les acquis de la démocratie et de la stabilité de la RDC n'aillent pas en fumée ?
Je l'ai répété tout le long de cette émission, je continue à le dire, construire un État moderne, stable, c'est des petits pas. C'est comme construire une maison, comme faire grandir un enfant. Il y a des hauts, il y a des bas, on tombe, on se relève, on recommence, mais il ne faut pas revenir en arrière. Ça, je le répète aux Congolais. On peut se permettre des petits erreurs, des petits dérapages, des petits trucs, il n'y a pas de problème, c'est ça, c'est comme ça que les nations se construisent. C'est des hauts et des bas, en zigzag, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça. C'est que nous sommes dans un processus de construire un État moderne, un État développé, un État, c'est ce que aspirent les Congolais. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est que nous sommes dans un pays qui, malgré toutes les difficultés qui existent, des zones de conflit, l'Ebola, la pauvreté, tout ce qu'on veut, on a réussi à faire respecter notre constitution, à ce que notre président fait ses deux mandats et il passe le témoin. Ce sont des acquis très forts et on ne les voit pas aujourd'hui parce qu'on est toujours passionné. Vous savez, l'être humain, il veut avoir tous les résultats dans sa vie. Or, les nations, c'est des générations, c'est pas une vie. Et donc ça, c'est des acquis importants pour la démocratie congolaise. Oui. C'est des acquis qui vont permettre à ce que le prochain président, quel qu'il soit, il sait qu'il a deux mandats et que les Congolais ne lui permettront pas de faire plus. Et on avance. La RDC est le centre de l'Afrique. L'Afrique ne sera jamais un continent qui va prendre son destin et son élan si la RDC reste le ventre mou. Voilà.
Alors, avant de finir, nous vous donnons l'opportunité de présenter vos vœux aux milliers de nos auditeurs qui vous écoutent en ce moment pendant ce contexte particulier des festivités de fin d'année.
D'abord, je remercie Radio Okapi de me donner cette opportunité parce que pour moi, c'est important d'abord de venir ici dans vos studios, de rencontrer nos staffs qui travaillent dans des contextes difficiles, de leur transmettre de vive voix, puisque je l'ai fait par écrit, mais je veux le transmettre de vive voix pour leur dire « bonne année ». 2019, nous aurons, j'espère, une année meilleure que 2018. Et deuxième chose, je transmets ce message à tous ceux qui nous écoutent, à tous les staffs Nations Unies, mais à tous les Congolais qui sont dans une phase cruciale. Aujourd'hui, nous croisons tous les bras avec eux et nous leur disons, nous souhaitons vraiment de tout cœur à tous les Congolais et à toutes les Congolaises que l'année 2019 sera une année où ils pourront prendre leur élan, travailler sur leur développement et nous pourrons avoir des moments de joie, de paix et de sérénité. Et bien sûr, j'espère de tout cœur que nous aurons le plaisir de fêter ça ensemble juste après les élections.
Madame Leïla Zeroudi, je vous remercie.
Je vous remercie encore une fois.
Ainsi prend fin grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous est produite avec le concours de Alain Irung sous la supervision de Tina Salama. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Vous pouvez réécouter cette émission ce samedi à 19h, dimanche à 11h et mardi à 14h15. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05, heure de Kinshasa. Merci de rester fidèle à Radio Okapi, fréquence de la paix. Bonne année 2019 à vous. Merci et au revoir.